Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. À la une ce matin, un péril nommé Bannon. À une semaine des européennes, la majorité présidentielle accuse le nationaliste américain d'être le ventriloque de Marine Le Pen et du Rassemblement National. Confidence d'Emmanuel Macron dans un instant avec Cyril Graziani. Plus de traitement pour Vincent Lambert, théoriquement à partir d'aujourd'hui. Au nom du droit à mourir contre l'obstination déraisonnable de la médecine, ses parents veulent de nouveau saisir la justice. Il parle d'euthanasie. Celui que vous recevez dans 20 minutes, tête de liste aux européennes, demande lui qu'on se laisse encore du temps, Nicolas.
Il s'agit, oui, Florence, de François-Xavier Bellamy, tête de liste pour le Parti Les Républicains. Amis auditeurs, appelez-nous, intervenez dans le débat. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile de France Inter.
À la une également, le deuxième procès Balkany. Dans la foulée du premier, on va parler fortune et corruption au tribunal de Paris. Des paquets de cigarettes marqués comme des billets de banque pour éviter les trafics. La belle histoire d'Atlanta, c'est un milliardaire américain qui a décidé hier de rembourser les prêts de tous les diplômés d'une université. Et puis à Cannes, les frères Dardenne en lice aujourd'hui en compétition officielle. Hier, c'est Céline Sciamma qui a monté les marches avec un film d'amour en costume.
France Inter.
C'est l'oncle d'Amérique des nationalistes européens en croisade contre les mondialistes en général et contre Emmanuel Macron en particulier. Steve Bannon est à Paris. Lui qui se vante d'avoir fait Donald Trump veut désormais planter un pieu dans le cœur de l'Europe grâce à Marine Le Pen, Matteo Salvini et Viktor Orban. On a parlé que de lui ce week-end. Bonjour Cyril Graziani.
Bonjour.
Steve Bannon, clairement dans le viseur de la majorité pour cette dernière semaine avant les élections. C'est la cible également désignée par Emmanuel Macron qui s'est livré à quelques confidences hier.
Le chef de l'État indéniablement n'a guère apprécié cette ingérence du sulfureux ex-stratège de Donald Trump. À ses troupes, il a demandé de ne rien céder au Rassemblement national, notamment sur ses liens avec la Russie. Et Steve Bannon, objectif clair, Marine Le Pen dimanche ne doit pas gagner, c'est le parti de l'étranger, a-t-il dit en privé, et il va même plus loin, c'est l'ennemi de l'extérieur. Outre ce soutien affiché de Bannon, le président cible aussi le scandale russe éclaboussant le vice-chancelier autrichien et allié du RN. Il est en effet mis en cause par une vidéo qui le montre sollicitant l'aide financière et politique d'une ressortissante russe en échange de marchés publics. Et enfin, il cible aussi la virée italienne de Marine Le Pen à Milan ce week-end. Tout au long de la campagne, Emmanuel Macron et sa majorité n'ont cessé de dramatiser l'affrontement entre progressistes et nationalistes. Dans la dernière ligne droite, cet affrontement est à son maximum.
Alors comment va-t-il répliquer maintenant le président Cyril ?
Eh bien Emmanuel Macron n'a pas l'intention de regarder ça de loin. Demain, le président donnera une interview à toute la presse quotidienne régionale. L'avantage, c'est de diffuser ses messages partout en France, le mettre en première ligne sans mordre sur le temps de parole audiovisuel de sa liste dans la dernière semaine. Il a aussi chargé tous les ministres de s'engager dans la campagne, Édouard Philippe en premier lieu, avec un message principal à passer, l'Europe concrète. Le chef de l'État multiplie également les échanges avec les dirigeants européens, Donald Tusk, surtout ce soir le socialiste portugais Antonio Costa, tout ça teinté de vert, jeudi avec la réunion du premier conseil de défense écologique à 3 jours du vote.
Et ce matin, merci Cyril Graziani, comme chaque jour de cette dernière semaine de campagne pour les élections européennes, France Inter a choisi de braquer les projecteurs sur un des grands pays de l'Union. Alors, direction l'Italie, pour commencer, où Matteo Salvini a pris toute la lumière, le patron de la Ligue d'extrême droite omniprésent dans la campagne de ce vote de dimanche. Mathilde Imberti, il attend la consécration de sa politique anti-immigration.
Le calendrier est parfait pour Matteo Salvini. Les élections se présentent dans sa première année de prise de pouvoir. Infatigable VRP de sa propre politique, il sillonne l'Italie. Tantôt avec la casquette de secrétaire de la Ligue, tantôt avec celle de ministre de l'Intérieur. Un mélange des genres, peu importe pour lui. Il entend transformer le scrutin de dimanche en un plébiscite. Ici un meeting dans le Piémont.
Le 26 mai, ce ne sont pas des élections européennes. Le 26 mai, c'est un référendum entre la vie et la mort, entre le passé et l'avenir, entre une Europe libre et un État islamique fondé sur la précarité et la peur.
Dans les médias, c'est une non-campagne, pas de débat, comme en France, entre les candidats à la télévision. Matteo Salvini en profite, monopolise les écrans avec une aisance remarquable, observe Lorenzo Preliasco, institut de sondage YouTrend, auteur du phénomène Salvini.
Il maîtrise parfaitement les formats, il se débarrasse facilement des questions gênantes. Il est sans doute l'homme politique le plus efficace à la télévision de ces dernières années, peut-être avec Renzi et Berlusconi. Grâce aux réseaux sociaux et à la télé, il a construit son leadership.
La Ligue, donnée à plus de 30% des voix, est en passe de devenir le premier parti d'Italie et premier parti souverainiste d'Europe. À Rome, Mathilde Imberti, France Inter.
Il est 8h06, Florence, l'affaire Vincent Lambert en train de prendre une tournure politique.
François-Xavier Bellamy, candidat Les Républicains aux Européennes, appelle Emmanuel Macron à donner son sentiment sur l'arrêt des soins programmés cette semaine. Nous n'avons pas le droit de dire qu'un homme, parce qu'il est dépendant, n'a plus le droit de vivre, estime-t-il. Comme une partie de la famille de Vincent Lambert en état végétatif depuis 10 ans, ses parents vont déposer de nouveaux recours aujourd'hui alors que les précédents ont tous été rejetés. Il dénonce la première euthanasie légale de France et demande la radiation du médecin de Vincent Lambert. Jean Leonetti estime quant à lui que la procédure s'inscrit bien dans la loi sur la fin de vie qui porte son nom, comme le docteur Vincent Morel, spécialiste en soins palliatifs au CHU de Rouen.
L'arrêt de la procédure des traitements qui va être mise en route rentre totalement dans le cadre de la loi Claeys-Leonetti, parce que la loi Claeys-Leonetti n'est pas qu'une loi sur la fin de vie, elle est d'abord une loi pour tous les malades, pour lutter contre l'acharnement thérapeutique et s'assurer qu'ils seront bien au cœur des décisions qui les concernent. Et en ce sens, la loi Claeys-Leonetti s'applique à tous les patients, quelle que soit leur situation médicale ou les situations de handicap dans laquelle ils peuvent se trouver. Dans l'affaire Vincent Lambert, le Conseil d'État a confirmé à 2 reprises, à la fois en 2014 et en 2019, que nous nous trouvions bien dans une situation d'obstination déraisonnable. Il est maintenu en vie simplement par une hydratation et une nutrition artificielle. Et aux 2 reprises, ils ont également confirmé la volonté indirectement exprimée par M. Lambert de ne pas vivre une telle situation.
Le docteur Vincent Morel du CHU de Rouen avec Daniel Messager. L'affaire Vincent Lambert, familiale, médicale, judiciaire et désormais politique, résumé sur franceinter.fr. Un Algérien condamné pour apologie du terrorisme a disparu depuis 2 mois de Valence où il était assigné à résidence. C'est une information de France Bleu de Romardèche. Les services de renseignement sont à sa recherche.
8h08, attention, un procès Balkany peut en cacher un autre.
Les époux contre lesquels une peine de prison et d'inéligibilité a été requise la semaine dernière pour fraude fiscale, vont à présent devoir répondre de corruption devant le tribunal de Paris, Sarah Guibaudot. Les juges vont se pencher sur l'origine de leur fortune.
Patrick Balkany a donné sa version de l'origine de sa fortune. Les fonds placés en Suisse par son père, rescapé d'Auschwitz, la vente du magasin familial rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris en 1988 et un vieux matelas de lingots d'or et d'argent liquide, même si le procureur observe qu'il n'y avait pas à l'époque de billets de 500 euros, comme ceux que les Balkany dépensent 20 ans plus tard. Les juges d'instruction ont trouvé, eux, d'autres explications possibles. En 2009, 2 versements auraient permis l'achat de la villa de Marrakech. Le premier d'un promoteur saoudien, Al-Jaber, qui voulait construire un hôtel à Levallois. Le deuxième de George Forrest, un homme d'affaires bien connu en Afrique. Forrest affirme avoir versé une commission pour une société minière en Namibie que Patrick Balkany lui aurait apportée. À la sortie de l'audience la semaine dernière, le maire de Levallois a démenti.
Je ne connais absolument pas cette affaire, je ne connais pas la Namibie, que ce soit Forrest ou Al-Jaber, ils n'avaient strictement ni l'un ni l'autre aucune raison de me faire quelque cadeau que ce soit.
Outre des témoignages, le dossier contient pourtant des preuves de ces versements et une photo de Patrick Balkany avec l'ancien président de Namibie.
Isabelle Balkany, toujours hospitalisée la semaine dernière, va mieux, a dit son avocat en fin de semaine. Elle va peut-être pouvoir rejoindre son mari devant le tribunal. Les mots du rappeur Nick Conrad dans le collimateur du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a saisi la justice au sujet d'un de ses clips, un appel à la haine de la France, selon lui. Le rappeur a déjà été condamné pour un précédent morceau qui appelait à pendre les Blancs. Des paquets de cigarettes marqués comme des billets de banque pour lutter contre la contrebande. 5 signes d'identification seront apposés sur les paquets fabriqués à partir d'aujourd'hui par les industriels. Voilà, Faustine Calmel, de quoi assurer leur traçabilité pour lutter contre les trafics.
C'est sur les côtés, les faces latérales du paquet que sont insérées de nouvelles marques.
D'une part, un code barre ou un QR code. Et d'autre part, une petite vignette.
Rodolphe Gins, directeur général des douanes.
Ces 2 marques correspondent à 2 dispositifs différents, un dispositif de traçabilité qui nous permet de savoir quasiment en temps réel où sont tous les paquets de cigarettes destinés au marché français. et une marque de sécurité qui nous permettra de savoir si ce paquet a bien été fabriqué par un industriel ou s'il a été fabriqué par quelqu'un d'autre.
Les douaniers pourront scanner ces marques grâce à leur téléphone portable et savoir instantanément si les paquets sont sur la bonne route commerciale ou s'ils ont été détournés. Cet étiquetage va aussi permettre de mieux remonter les filières de fraudeurs, espèrent les douanes, qui parient sur son côté infalsifiable.
Nous avons des dispositifs visibles, un peu comme les billets de banque, hein, visibles seulement à l'ultraviolet. Il y a même des traceurs moléculaires que notre laboratoire spécialisé dans le tabac à Marseille va pouvoir suivre. Donc c'est vraiment un très très haut niveau de sécurité qui a été pensé pour ce nouveau dispositif.
Un dispositif européen qui se veut à la hauteur d'une fraude bien établie. Selon les buralistes, 30% des cigarettes consommées en France sont vendues au marché noir. Ce sont 3 milliards de recettes fiscales en moins chaque année dans les caisses de l'État.
Donald Trump ne relâche pas la pression sur Téhéran. Si l'Iran veut se battre, ce sera la fin officielle de l'Iran, a tweeté l'Américain, alors que les États-Unis ont fait évacuer leur personnel diplomatique non essentiel de Bagdad dans la crainte d'attaques de groupes armés soutenus par l'Iran. Une roquette est précisément tombée hier soir sur la zone des ambassades. Des jeunes gens qui s'endettent lourdement pour payer leurs études et qui la traînent cette dette pendant de longues années. Ça se passe comme ça aux États-Unis. Alors imaginez la surprise et la joie des diplômés de l'université Morehouse d'Atlanta quand un milliardaire hier est venu leur annoncer qu'il remboursait leurs prêts. Récit signé Grégory Phillips.
Sur le campus, 400 étudiants en robe de cérémonie qui, comme le veut la tradition, sont appelés les uns après les autres pour recevoir ce précieux diplôme de l'université de Morehouse. L'établissement a formé notamment Martin Luther King, le réalisateur Spike Lee et de nombreux jeunes hommes afro-américains. Puis l'invité d'honneur de la cérémonie, le milliardaire Robert F. Smith, monte sur la scène. L'homme a fait fortune grâce à sa société d'investissement privé. Et il est aujourd'hui la personnalité africaine-américaine la plus riche du pays, devant Oprah Winfrey. Et le milliardaire annonce donc ceci.
On va mettre un peu de carburant dans votre moteur. Ma famille crée une bourse pour effacer tous vos prêts étudiants.
Les jeunes diplômés n'en reviennent pas. La plupart d'entre eux se sont endettés pour venir ici. Une année à Morehouse coûte en moyenne environ 48 000 dollars. Ce jeune diplômé témoigne sur la chaîne locale Fox.
C'est un jour historique pour moi. Quel bonheur. Je suis tellement heureux. Je n'ai pas les mots.
Le don effectué par Robert F. Smith, l'annulation de tous ses prêts étudiants, lui coûtera environ 40 millions de dollars. Je vous offre ça aujourd'hui, a conclu le milliardaire, mais demain ce sera à vous d'aider et d'améliorer la vie de votre communauté. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et selon l'agence Fitch, la dette des étudiants aux États-Unis dépasse aujourd'hui les 1000 milliards de dollars. Attention, des bouchons ce matin autour de Paris. Les taxis, les auto-écoles et des ambulanciers manifestent au volant à Toulouse, Strasbourg ou Dijon également contre l'ubérisation de leur secteur. En région parisienne, des opérations escargots sont en cours au départ de Roissy, d'Orly, de la Défense et de Torcy, direction le centre de Paris.
8h13, le PSG va-t-il perdre sa pépite Mbappé?
L'attaquant sacré meilleur joueur et meilleur espoir du championnat hier soir au trophée de l'UNFP a laissé planer le doute. C'est un tournant dans ma carrière, le moment d'avoir plus de responsabilités, peut-être au PSG, peut-être ailleurs, a-t-il lâché. Et voilà la machine à rumeurs relancée, notamment du côté du Real Madrid où Zinedine Zidane a très envie de le recruter. Enfin Cannes, où les larmes d'Alain Delon, venu recevoir une palme pour l'ensemble de sa carrière, un hommage posthume de mon vivant. Ce sont les mots d'Alain Delon, 83 ans, qui a monté les marches sur la musique du clan des Siciliens. Du côté de la compétition, on retiendra le deuxième film français de cette quinzaine, le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma avec Adèle Haenel notamment. La cinéaste, habituellement très contemporaine, signe aujourd'hui un film en costume qui est aussi et surtout un beau film d'amour, nous dit Eva Bétan.
Et si l'amour était le seul sujet qui vaille? L'amour chez Céline Sciamma est à la fois romanesque et insolent, alchimie rare que l'on rencontre dans ce film d'époque. Un sentiment amoureux né entre deux femmes, l'une promise à un mariage de convenance et sa portraitiste, Céline Sciamma.
L'inamoramento, ce que c'est que tomber amoureux et à quel point ça passe par de l'admiration intellectuelle, de l'humour, du débat. Et l'endroit où elle pense, c'est ça que vous associez à l'insolence. Parce que c'est rare de voir les gens penser au cinéma, et les femmes encore plus.
Dans cette période où les femmes étaient contraintes, elles ont arraché cette histoire d'amour. Même si le temps est compté, l'amour est une force qui dure.
Moi j'avais envie à la fois de briser le cœur et puis de consoler les gens. Les amours vécus sont des amours reçus. Les amours vécus sont des amours reçus. Les grands amours vivent en nous, survivent en nous. Je vois pas du tout l'endroit où ça peut devenir une défaite. Je pense que parfois, même aimer seul, c'est pas une défaite.
Elle est audacieuse, Céline Sciamma, qui allie amour et intelligence. Souvenir de l'amour et envie de vivre et de créer. D'un sujet éternel, Céline Sciamma propose une très belle variation. Cœur ouvert et tête droite. À Cannes, Eva Bétan, France Inter.
Oui, il n'y a pas d'amour perdu, Nicolas. À suivre aujourd'hui, les frères Dardenne en lice pour une troisième Palme d'Or avec le jeune Ahmed, un film qui parle de la radicalisation. Et puis Isabelle Huppert chez l'américain Ira Satch pour Frankie, c'est le nom du film.
Merci Florence Paracuelos.